Bienvenue dans le troisième épisode de Podcast, le podcast de la WebED. Je suis Yéa.
Je suis Jackpot, et oui, je suis enrhumée.
Et aujourd'hui, le thème de l'épisode est le style.
Tantan.
Le style, cette créature mythique que tous les artistes en herbe cherchent à dompter. Kezako, au juste, le style. Alors, quand on dit style, on entend généralement deux choses qui s'excluent pas mutuellement. Donc on entend soit l'identité, le dessin immédiatement reconnaissable, la patte d'un artiste, soit le style en tant que mouvement, école, donc style, dans le cas de la BD, ça va être style manga, style comics, style franco-belge.
Ouais, voilà. Ça permet un peu de classer les artistes en fonction de ce qu'ils produisent.
Voilà.
Ça met un petit peu des étiquettes, ça vous identifie en fait.
Et donc ce style, comment le trouver et est-ce vraiment si important au final, hein?
Parce que sur un podcast, on pose les vraies questions.
Oui. Donc on va commencer avec nos témoignages et Jackpot, allez, c'est ton tour. Comment définirais-tu ton style?
Ah, trop de questions. Alors, c'est une très bonne question. Alors, je dirais en premier lieu, pour moi, je suis dans un style plutôt manga. Mais je dirais que c'est moitié manga, moitié semi-réaliste et moitié cartoon derrière.
Ça fait beaucoup de moitié,
voilà. Ça fait beaucoup de moitié. Je dirais que c'est un petit peu un mélange de tout ça. Moi, j'ai un peu de mal à me définir clairement, mais ce que j'ai déjà entendu, on m'a déjà dit que j'avais un style plutôt comics, ce qui me remplit de grande perplexité parce que vraiment, j'aime pas du tout le style comics en
donc
général.
Donc, comics, c'est du
type
genre
X-Men, tu vois.
D'accord, donc.
Pour moi, j'entends ça quand on me dit comics, mais après, c'est très large, il y a plein de choses différentes, mais bon. Je considère pas avoir un style très comics, mais bon. Et on m'a aussi dit que j'avais des influences un peu animation, Disney, ouais. Ce que je peux difficilement nier étant donné mon parcours professionnel.
Ça se voit davantage que le style comics, en tout cas.
Voilà.
Et comment tu dirais que tu l'as trouvé, ton style, si tant est que tu l'aies trouvé?
Si tant est que j'ai trouvé. Alors, le style que j'ai actuellement, c'est une très longue histoire.
Ah.
Qui commence il y a bien 20 ans, figure-toi. Moi, le cheminement que j'ai eu pour trouver mon style, c'est fait un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'on entend souvent, quand on est artiste, on va se dire il faut que je trouve mon style, je vais chercher mon style. Et moi, j'ai plutôt cherché l'inverse. En fait, j'ai cherché à ne pas avoir un style, en fait.
Ah bah ça, c'est...
C'est un peu bizarre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais, mettons, 15 ans, à peu près, j'ai découvert le manga. J'ai découvert le manga Sailor Moon. Et alors là, ça a été la révélation. C'était ça qu'il fallait que je voulais faire ça. Je voulais vraiment dessiner. C'était le choc stylistique. Voilà, c'était Sailor Moon. Donc j'ai commencé à dessiner vraiment très concrètement en recopiant le manga de Sailor Moon. Mais, allez savoir pourquoi, à la même époque, dans ma tête, je me suis dit... Bah, j'aime ce style, mais je peux pas utiliser ce style, puisque c'est pas le mien. Il existe déjà, donc je peux pas me l'approprier, ce serait du vol en fait, ce serait mal. Donc vraiment, je me suis mis tout de suite des barrières morales de manière parfaitement arbitraire, et c'était rétrospectivement un point de vue très très immature, j'avais 14-15 ans.
Bah oui, voilà. C'est normal.
Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé aussi, concours de circonstances, à la même époque, je me suis retrouvée avec entre les mains un album de Torgal.
Donc Sailor Moon, Torgal.
Sailor Moon, Torgal, voilà, tout est normal. Et donc Torgal, quand je découvre Torgal, c'est du style réaliste, quoi. Et donc là, je me suis dit, ah bah ça, comme c'est réaliste, il n'y a pas de problème de copier, pas copier, c'est réaliste, c'est solide, voilà, il n'y a pas de problème, quoi.
Donc, c'est logique.
C'est logique, voilà. Quand on a 15 ans, on a 15 ans, hein. Et donc je suis plutôt partie dans du... Voilà, j'étais à la fois influencée par le manga, mais je voulais quand même plutôt dessiner réaliste. Il y avait aussi à l'époque Tsukasa Ojo, qui est l'auteur de City Hunter, qui était très à la mode et
donc,
qui m'a aussi influencée.
Donc connu sous le nom de Nicky Larson, voilà, en français.
Et qui avait un style, certes manga, mais quand même assez réaliste, très solide, etc. Beaucoup de détails, donc ça aussi, ça m'a un petit peu influencée.
Ouais, il est un peu à la jonction entre les codes et les schémas du manga et le dessin réaliste, ouais.
Et il y avait aussi à l'époque un petit peu de Campbell, l'auteur de Danger Girl, qui faisait des pin-up très sexy, très, très plantureuses, qui m'a un petit peu influencée aussi. Et donc, voilà, pendant plusieurs années, je suis partie là-dedans à essayer de rester plutôt réaliste, tout en expérimentant plein d'autres choses, parce que j'ai aussi fait des études d'art, et donc c'est une époque où on expérimente plein de choses.
Quand tu fais des études d'art, t'es obligée de sortir un peu de ta zone de confort.
C'est ça, puis on te fait faire beaucoup de choses, puis bon, j'avais pas vraiment de zone de confort, puisque je dessinais un peu, en me disant « faut que je fasse comme ci, et pas comme ça ». Et en fait, le jour où j'ai vraiment eu un déclic, c'était vers mes 23-24 ans, je dirais, donc 10 ans plus tard, hein. Et là je me suis dit, mais en fait, pourquoi je me contrains comme ça? J'ai envie de dessiner de cette façon-là, en fait. Pourquoi est-ce que je m'empêche de le faire si j'en ai envie? Et je me suis juste dit, bah, je vais l'assumer, en fait, tout simplement. Je vais écouter ce que j'ai envie de faire, je vais m'écouter moi, faire ce qui me fait plaisir, dessiner ce qui me fait plaisir de dessiner. Et si on me dit, ça ressemble à ci ou ça, bah, je dirais oui, tant pis.
Bah oui.
Et en fait, ça, c'était un déclic très important, parce que ça m'a vraiment mis sur le chemin. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai pris du plaisir à dessiner. Et ça, c'est fondamental. On dessine pas pour se faire du mal, tout simplement. Hein, on dessine parce que ça nous fait plaisir. Et là... tout de suite, ça m'a débloqué. Je suis partie sur un chemin. J'avais pas vraiment un style à moi, mais je me faisais plus plaisir. Ça commençait à me correspondre plus.
C'est devenu petit à petit, du coup.
Voilà, c'est ça. Ouais. Ça s'est fait avec le temps, parce que je dirais que le style que j'ai actuellement, que je reconnais comme étant mon style, vraiment, il s'est mis en place encore bien plus tard, vers la trentaine, quand j'ai commencé à dessiner Joe. Tout simplement, quand j'ai commencé mon webcomic. Parce que à ce moment-là, mon dessin est devenu un moyen au service d'une fin qui était raconter l'histoire de Joe. Et là, le déclic, c'était fini, quoi. Ça y est, le style s'est mis en place à ce moment-là. Tout est tombé en place.
Toutes les pièces du puzzle.
Toutes les pièces du puzzle se sont agencées et paf, ça fait des chocs à pic. Ça fait le style de Jackpot. En tout cas, le style que j'ai actuellement en tant que dessinatrice de Joe.
Oui, parce qu'au final, c'est pas tant que t'as une ou plusieurs cases à cocher, c'est que tu choisis des blocs que tu agences toi-même,
voilà.
Et qui sont confortables dans cette position-là, mais qui peuvent être amenés à bouger éventuellement.
C'est ça. Donc j'ai fait ma petite tambouille. Et du coup, à l'heure actuelle, je me rends compte que je vais aimer, au niveau de mes influences, j'aime énormément de styles différents. Je vais aimer des styles qui sont très très graphiques, très cartoon, mais je vais aussi aimer des styles qui sont très détaillés, très esthétisants, plus réalistes, etc. Mais je sais que moi, pour dessiner Joe, je pourrais pas dessiner comme ça, parce que pour dessiner Joe, bah, j'ai besoin d'avoir un petit peu de réalisme dans l'anatomie, donc je pourrais pas dessiner de manière trop cartoon, parce que ça me briderait à ce niveau-là. Et j'ai besoin d'une narration qui est légère, qui est comédie, qui est fluide, donc je peux pas non plus dessiner quelque chose de trop détaillé, trop foisonnant, trop esthétique, parce que ça correspondrait pas non plus, en fait, à ce que j'ai
raconté. Ça serait pas du tout dans le ton de la bande dessinée.
C'est ça, exactement. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui ont créé le style que j'ai actuellement. Et ça a pris 20 ans. Voilà.
Beau cheminement.
Merci. Et toi, Lia, du coup, comment tu définirais ton style ?
Ah, quel casse-tête, cette question ! J'essaie d'y réfléchir depuis qu'on a prévu de faire cet épisode. Et j'ai...
Elle n'endort plus la nuit.
Ça va quand même. Moi, j'avais tendance à plutôt dire que j'avais une influence assez cartoon. Et en fait, quand j'ai demandé à d'autres personnes de m'aider à définir mon style, c'est absolument pas le terme qui a été employé pour le définir, donc j'étais bien embêtée. Alors j'ai une amie qui m'a dit que mon style, c'était comme des illustrations de livres pour enfants, mais pour adultes. Alors j'aime beaucoup la formulation, mais j'avoue que ça m'a laissé un peu perplexe, parce que j'étais pas bien sûre de comprendre ce qu'elle voulait dire.
Mais en fait, ça te correspond pas mal, parce que c'est vrai que t'as un style qui est assez léger, t'es pas très détaillé, c'est assez synthétique, en fait, d'où le côté un peu cartoon.
Ouais, ça doit être ça. Ouais.
Mais ce que tu racontes, c'est pas enfantin, en fait.
Ouais.
T'as un trait enfantin, mais que tu ne dessines pas des choses enfantines.
C'est probablement ça. Et l'autre chose qui est revenue aussi beaucoup quand on m'a aidé à définir mon style, c'est que les caractéristiques les plus fortes qu'on remarquait dans mon dessin, c'était l'expressivité de mes personnages, donc de leurs expressions et de leurs poses, et aussi l'atmosphère colorée, la façon dont je gérais mes couleurs, apparemment.
C'est ce qui fait le style Lia.
Voilà, ce sont des composantes de mon style, apparemment. Mais ceci étant dit, hein, une chose à noter pour moi, c'est que... Donc pour mon webcomic Fangs and Frights, j'ai une façon dont je dessine qui est spécifique à ce webcomic, mais c'est pas forcément comme ça que je dessine tout le temps, en fait.
Ouais, t'as plusieurs styles différents.
Ouais, c'est ça.
Styles à ton arc.
Plusieurs styles à mon arc, ouais. Quand je fais des dessins, des brouillons, je dessine de plein de façons différentes parce que j'aime bien expérimenter. Quand je fais des aquarelles, j'ai pas du tout le même style que quand je fais mon webcomic. J'ai même un style encore plus synthétique, je pense, quand je fais des aquarelles. Ouais. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que j'ai plutôt... les choses vraiment récurrentes chez moi, c'est les thèmes que j'aborde.
D'accord.
Et ça va être... j'oscille entre les trucs mignons et les trucs angoissants. Et, okay. ça, pour moi, c'est plus ça qui va me caractériser que vraiment la façon dont je dessine, en fait.
Ok. Et du coup, tes influences, quelles sont-elles ?
Ah, mes influences sont multiples et variées. Et chose intéressante, c'est que moi aussi, à l'adolescence, j'étais comme toi, je recopiais du manga. Et les deux grands piliers manga que j'ai moi dans ma besace d'influence, c'est One Piece et Full Metal Alchemist.
Qui sont de bonnes
Oh,
influences,
oui,
hein, la
très très
qualité est
bien.
présente.
Oui. Et One Piece, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était pas du tout le dessin. Parce que même, je me souviens très bien, One Piece, la première fois que j'ai ramassé le tome 1, c'était en me disant, tiens, qu'est-ce que c'est moche, et j'ai voulu me marrer. Et en fait, je suis rentrée dans l'histoire de suite. J'ai été
Et
complètement
voilà.
happée. Et au final, ce que j'ai vraiment retenu de One Piece, c'est que Oda a un trait de dessin qui lui permet de faire absolument ce qu'il veut avec ses designs de personnages. Il peut être aussi fou ou aussi sage qu'il le désire, il peut se permettre absolument tout.
C'est vrai qu'ils sont très variés les personnages dans
Ouais,
One Piece.
ouais, ouais. Et ça, moi, je trouvais ça fascinant. Et je pense que ça m'a beaucoup influencé dans l'idée que je voulais essayer de trouver un style de dessin qui soit suffisamment simple pour pas que ce soit trop dur à faire.
Ouais.
Mais suffisamment malléable pour
Ouais.
pouvoir me permettre de dessiner plein de personnages différents. Ça, c'est vraiment très important pour moi, c'est la diversité des personnages. Et Fullmetal Alchemist, par contre, ce qui m'a beaucoup marqué dedans, alors que le dessin est beaucoup plus joli, c'est plutôt la façon dont la narration a été faite. Donc, notamment comment on oscille très rapidement entre un passage extrêmement drôle et un passage hyper dramatique, je trouve que c'est. Pour moi, c'est un pilier de la narration, Fullmetal Alchemist. Et sinon, en dehors de ça, donc ça, ce sont mes grosses influences manga, mais j'ai énormément d'autres influences où je pique des trucs à droite à gauche. Donc j'ai, par exemple, il y a Jonan Vasquez qui est l'auteur de Invader Zim que j'aime énormément, Gravity Falls, beaucoup d'autres cartoons américains, les BD franco-belges en général qui ont bercé mon enfance. J'aime énormément aussi l'humour britannique avec toutes les
Ah,
séries
l'humour
télé comme
britannique.
ouais, l'humour britannique comme ben, Black Books, j'adore, Father Ted, The IT Crowd aussi, enfin
Ah, bien sûr.
voilà, tout ça. Et aussi le film What We Do in the Shadows de Taika Waititi, c'est un de mes films de cœur avec aussi, bon il n'est pas britannique Taika Waititi, mais Shaun of the Dead, c'est aussi
Ah
un de mes grands films
ouais.
préférés.
Oui,
Enfin.
c'est les trucs avec de l'humour un peu pince sans rire.
Ouais, ah ouais, j'adore ça. Je sais pas si j'arrive à m'en inspirer correctement, mais en tout cas, j'adore ça. Puis aussi, il y a des jeux vidéo, parce que ben, on fait pas que lire des bouquins et regarder des films. C'est Pokémon, Undertale et Off de Mortis Ghost. Enfin, bref, c'est tout ça. C'est un peu dur de trier parfois qu'est-ce qui me plaît exactement et qu'est-ce qui m'influence exactement dans une œuvre. Mais j'ai. En fait, la variété de tout ça
C'est
et le.
le mélange en
Ouais,
fait,
c'est le
ouais.
mélange et le fait aussi que. Quand on me demande ce qui m'influence, je pense à ça parce que ça a eu un grand impact dans ma vie et j'arrive pas forcément
Ouais.
précisément à mettre le doigt sur pourquoi.
Ouais. Mais ça t'a
Mais
influencé, donc
ça
ça fait partie des
m'influence.
choses qui
Ouais.
t'influencent. Et du coup, qu'est-ce qui ne fait définitivement pas partie de ton style?
Ah, bien, tu vois, tu parlais de Thorgal tout à l'heure et moi, par exemple, Thorgal, tout ce qui est trop réaliste, ça, c'est quelque chose très tôt. Je me suis dit, oh, mais ça m'intéresse pas du tout, ça, en fait.
Nous allons faire du réalisme shaming dans cet épisode.
Mais non, mais
Rien
c'est
de
juste.
personnel, hein. Si vous
Non, pas
décidez
du tout.
réaliste, nous n'avons rien contre vous.
Le réalisme, c'est une prouesse technique. Je ne reviendrai pas là-dessus,
On
je
est
suis
tous d'accord.
d'accord. C'est très bien, c'est un très bon exercice à faire, mais en tant que spectatrice et en tant qu'autrice, je ne trouve aucun intérêt à refaire quelque chose qui ressemble à
Ouais.
quasiment 100% à ce
Bah,
qu'on voit
je
déjà dans la
comprends tout
vraie
à fait
vie.
ton point de vue.
Donc, moi, le réalisme, ça m'ennuie. Et
Voilà,
je
ça
suis.
c'est dit.
Voilà. Mais
Voilà.
après, enfin, si c'est votre truc,
Ah oui, il n'y a pas
foncez,
de.
hein,
Voilà.
tenez pas compte de mon avis à moi.
C'est sûr.
Mais c'est juste que du coup, enfin, là en l'occurrence, j'explique ça parce que ça fait partie des choses où je me suis pas posé la question sur le fait que je voulais pas faire ça. En fait, ça fait pas partie de mon
C'est ça,
style. Et
ouais.
puis c'est tout.
Et du coup, est-ce que ton style a déjà évolué ou radicalement changé?
Alors radicalement non, évoluer, ben oui,
Oui.
forcément, oui, parce que bon, voilà. Depuis One Piece et le moment où je recopiais Luffy dans mes
Ouais.
agendas au collège,
Ouais.
j'ai quand même parcouru du chemin. Mais ouais, ben, concernant le manga, justement, au début, c'est très plaisant à l'adolescence, je trouve, et je pense qu'on est très nombreux à avoir suivi ce cheminement, à s'approprier la codification et la façon dont le manga est très schématique, parce que c'est quelque chose qui permet d'obtenir un résultat satisfaisant, voire joli, très facilement en fait.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment plaisant, on commence à se sentir à l'aise en tant qu'artiste quand on arrive à exprimer des choses, et le
Ouais,
manga,
ouais.
ça permet de faire ça facilement. Donc pour moi, c'est normal que beaucoup de gens démarrent comme ça en
Bah
fait.
oui, d'ailleurs,
Ouais.
enfin, d'où toutes les deux, en tant qu'adolescente, c'est le manga qui nous a mis dedans, quoi.
Bah oui, voilà. Mais le manga, c'était aussi une frustration qui arrivait très vite parce que du fait que c'était schématique et codifié, on se retrouve.
Ça manquait de variété. Ouais. Voilà. Ça, je suis pareil que toi.
Ouais.
En fait, c'est vrai que moi aussi, bah, j'ai commencé par le manga, même si j'ai lâché. Enfin, je peux revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais oui, je te rejoins tout à fait là-dessus.
Ouais, voilà. Donc très vite, j'ai eu besoin de faire des corps et des visages qui ressemblaient à autre chose. Et c'est à partir de là où très vite, ben, en fait, j'ai testé plein de trucs qui étaient sans doute plus ou moins en rapport avec toutes les influences que j'ai citées, et puis ça s'est fait de façon un peu organique sans y réfléchir, quoi.
C'est... Ouais, voilà.
Mais le manga aussi, en fait, je trouve que c'est utile de réinjecter, enfin pour moi en tout cas, d'essayer de réinjecter certains aspects codifiés, schématiques à bon escient, parce que ça permet de faciliter son travail aussi.
Mmh, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Eh bien, merci de ton témoignage, Ia.
Mais de rien.
Du coup, maintenant qu'on vous a donné notre vision, comment on définirait nos styles personnels, je pense qu'on peut compléter la définition du style qu'on a donné en début d'épisode et dire que, bah, alors, en tout cas moi, la façon dont j'interprète tout ça, je considère que le style, en gros, ça, c'est l'intersection entre la somme des influences graphiques, des influences en général de quelqu'un, avec sa zone de confort.
Ouais.
C'est-à-dire que votre style, il va se trouver dans ce que vous aimez faire et ce que vous aimez... Là où vous aimez voir quelque chose et vous aimez le faire aussi, ça va faire votre style.
Ouais, et du coup, une façon aussi de trouver son style, c'est de virer les choses qu'on n'aime pas faire.
C'est donc, ça se fait à la fois par addition et par soustraction.
Ouais, je parlais du réalisme me concernant, mais j'ai aussi un autre exemple peut-être un peu plus concret. C'est que pendant longtemps, j'ai essayé de me forcer quand je faisais des dessins finis, des illustrations finies. Je voulais absolument avoir un line, donc une ligne d'ancrage, qui était impeccable, qui était belle. Et en fait, c'était une contrainte énorme pour moi. Je détestais faire ça, au point que ça me bloquait, que j'osais plus faire d'illustration. Et au bout d'un moment, je me suis dit que c'était plus possible. Et j'ai décidé de laisser mes lines venir telles qu'ils venaient. Et de pas chercher à les modifier, voilà. De pas chercher à quoi que ce soit. Et du coup, telles que mes lines me venaient, eh ben, c'est vrai qu'elles sont peut-être un peu plus...
C'est pas fermé, quoi.
Elles sont pas léchées et elles sont pas fermées. Je finis pas mes lignes. Et finalement...
Mais du coup, on reconnaît justement ton dessin. Ça fait partie des choses par lesquelles on reconnaît ton dessin. On identifie ton dessin.
Finalement, ça fait partie de mon style d'avoir des lignes pas finies. Donc, c'est quelque part... s'approprier ses facilités, c'est aussi une façon de...
Voilà. Il faut vraiment s'écouter. Il faut écouter ce qu'on aime faire. Là où on est à l'aise, ça va aussi faire partie du style. Et on parle souvent du style comme... on définit souvent le style par rapport au graphisme, vraiment, d'un artiste. On pense tout de suite au style graphique, mais pour moi, c'est aussi pas que la façon dont on dessine les bonshommes. Pour moi, c'est un ensemble de choses. Ça va peut-être reconnaître vraiment... par exemple, à la technique, il y a des artistes qui utilisent qu'une seule technique, et c'est comme ça qu'ils ont développé leur style. Au thème abordé, ce que tu disais tout à l'heure sur le mignon, le creepy, pour moi, c'est vraiment... Faut pas se limiter à la tête des personnages, quoi. Vraiment, c'est beaucoup plus large que ça.
C'est l'ensemble de tous les outils, au sens large du terme outil, qu'utilise un auteur, un créateur.
C'est ça. Et il y a le style créatif, c'est pas que le style graphique, il faut voir un peu au-delà de ça. Et du coup, la question que tout le monde se pose...
Bah comment on le trouve ?
Comment trouver son style ?
Vous le notez, vous le surlignez, ne pas le chercher.
Exactement. C'est
parce que...
Plot twist.
Ouais, plot twist. Parce que, en fait, vous n'allez pas passer une semaine en entier à vous faire un atelier style. Et à la fin de la semaine, vous aurez un diplôme de style. Donc ça... non, ça n'arrivera pas comme ça. C'est les composantes essentielles pour trouver son style, c'est... Avant tout, le temps et la pratique.
C'est ça. Faut pas vous stresser, faut pas vous mettre une contrainte de temps, vous dire oh, c'est terrible, j'ai pas de style, c'est pas grave.
Non, ça va juste vous bloquer.
Ça va vous bloquer et ça va venir. Et aussi, c'est pas forcément quelque chose dont on se rend compte soi-même, le style qu'on a. Moi, je connais j'ai des amis artistes qui ont l'impression de pas avoir de style, qui me disent mais on reconnaît pas mon dessin, alors que pour moi, mais bien sûr que si, on le reconnaît. Enfin, moi, je reconnais tout de suite ce qu'il ou elle dessine. Et voilà, le style, c'est à la fois. La façon dont on se définit soi-même et à la fois aussi la façon dont le public vous reconnaît.
Ouais.
Donc c'est pas quelque chose que vous maîtrisez totalement en fait. Donc il faut laisser aller, déconseillez-vous là-dessus, ça sert à rien de vous prendre la tête. Et du coup, une composante essentielle aussi, donc il y a le temps, il y a la pratique, et bien sûr les influences.
Oui, acceptez vos influences, parce que franchement, on va pas se mentir, hein, c'est... Une personne qui n'a aucune influence artistique,
ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Voilà.
Donc,
accepte. Je vous le dis tout de suite, personne n'a jamais rien inventé ex nihilo. Nous sommes tous la somme de nos influences.
Voilà. Donc, acceptez vos influences et faut en avoir le plusieurs parce que ben on trouvera toujours des trucs intéressants à piocher à droite à gauche.
Enfin, aussi, ouais.
On l'a bien démontré avec avec nos témoignages, je pense.
Et surtout de nos jours où on a accès à des, enfin il y a une explosion artistique vraiment grâce à Internet notamment. Ouais. Donc tous les jours vous pouvez faire des découvertes d'artistes incroyables. Donc c'est très facile aujourd'hui de diversifier ses influences, de vraiment d'aller chercher des artistes aussi bien, d'être influencé aussi bien par, je sais pas, une dessinatrice coréenne qu'un dessinateur sud-américain. Il y a aucun problème quoi. Vraiment c'est très facile aujourd'hui d'avoir beaucoup d'influences parce que le truc des influences c'est que si vous en avez qu'une seule ou même seulement deux, mais qu'il y a vraiment, il y a peut-être un ou deux artistes qui vraiment vous adorez ce qu'ils font et c'est ce style-là que vous voulez, vous avez tout à fait le droit, il n'y a aucun souci. Par contre, sachez-le, on va vous le dire. Ça va se voir à un moment donné et on va peut-être effectivement vous faire vous dire « Ah, ça me fait penser à tel artiste ou quoi. » Bah, dans ce cas-là, aucun problème, mais assumez-le.
Oui, il faut assumer.
C'est juste ça. Donc si par contre ça vous bloque, vous n'avez pas envie que, voilà, c'est pas... Eh bien, tout simplement, ayez beaucoup d'influences différentes. Ouais. Plus vous en avez, plus vous avez de chances de les mélanger, de les assimiler, de les digérer.
Ça fera un patchwork,
voilà,
qui finira
et de faire
par
quelque
vous
chose
ressembler.
Qui sera, voilà, c'est la combinaison en fait qui est unique en fait. C'est, les éléments sont tous existent, mais les combinaisons que vous en faites, il n'y a que vous qui la faites, cette combinaison-là.
Et du coup, ces influences, ben, pour faire ça, vous analysez un peu toutes ces influences et vous voyez pourquoi vous aimez certaines choses. Et qu'est-ce que vous voudriez garder dans ces choses que vous avez pour vous aussi.
Voilà, c'est pas mal d'avoir un point de vue un petit peu rationnel, d'analyser un petit peu.
Ouais, et donc accepter aussi que y a des choses que vous ne pouvez pas, que vous ne savez pas ou que vous aimez pas faire, alors même que ce sont des choses que vous avez adoré regarder en tant que spectateur, spectatrice.
C'est ça, j'ai une anecdote à ce sujet, donc vous voyez, le gros problème de l'influence, c'est savoir distinguer ce qui va nous influencer en tant qu'artiste, que créateur ou créatrice, et en tant que spectateur, spectatrice. Parce que ça peut être très dissocié, notamment j'ai assisté à une conférence d'un dessinateur qui s'appelle Mathieu Loffray, qui dessine Long John Silver, qui est une série de bandes dessinées avec des pirates. Et donc lui, il nous disait, écoutez, moi, j'adore les comédies franchouillardes avec Pierre Richard, Jean Rochefort, et je trouve ça très drôle, hein, j'aimerais beaucoup en faire, mais moi, ce que je sais faire, c'est les histoires de pirates. Voilà, et il disait, il y a l'artiste qu'on veut être et l'artiste qu'on est. Donc il faut, à un moment donné, arriver à faire le tri à ce niveau-là. Vous aimez peut-être ça, mais ce que vous savez faire, c'est ça. Ou ce que vous aimez faire, surtout, c'est ça.
Et si vous tenez absolument à vous libérer, c'est un grand mot, mais à essayer d'évoluer un peu en dehors des influences que vous pouvez avoir, le dessin d'observation, c'est
aussi
la solution.
Une composante très importante, qui est une solution à beaucoup de choses d'ailleurs.
Ouais.
De toute manière, pour progresser en dessin, le dessin d'observation, c'est plutôt pas mal.
Ouais, voilà. Donc, c'est le dessin d'observation, le style qu'on développe à partir de là, on peut un peu le définir comme la manière qu'a l'artiste d'interpréter le réel.
C'est ça, aussi, ouais.
Parce que du coup, ça va être votre trait à vous, vraiment, celui qui va sortir quand vous faites du dessin d'observation.
Voilà, c'est ça. Et du coup, il est l'heure de la théorie de Mamie JP.
La théorie
de
Mamie JP.
Vous savez qu'on aime bien vous donner nos petites théories. Alors, ma théorie à propos du style, c'est que pour moi, un style, ça se définit par rapport à la fois à la forme, mais aussi au fond. Pour moi, un style qui s'épanouit vraiment, c'est un style qui met le fond et la forme en osmose.
Qu'est-ce que c'est beau !
C'est beau, n'est-ce pas ? Donc quand je parle du fond, c'est de l'intention créative. Et du coup, dans ma petite tête, j'ai commencé à repérer qu'il y avait en gros, c'est vraiment ma théorie, hein, qu'il y aurait en gros trois catégories de styles parmi tous les artistes, dessinateurs, dessinatrices que je peux voir chaque jour sur la galaxie d'Internet. Moi, je considère j'arrive à ranger à peu près les styles narratifs, les styles illustratifs et les styles expressifs.
Qu'est-ce que c'est, Jamie,
Qu'est-ce que
tout
c'est
ça
Alors, le style narratif, pour moi, c'est les personnes qui vont être capables de représenter des choses très concrètes de manière très lisible. C'est-à-dire, vous voulez dessiner quelqu'un qui fait un gâteau dans une cuisine, vous dessinez quelqu'un qui fait un gâteau dans une cuisine, et il n'y a aucune ambiguïté sur ça. On le reconnaît très facilement.
On regarde l'image, on comprend, l'histoire, c'est la personne fait un gâteau.
Voilà, exactement. Donc c'est globalement les styles qu'on retrouve le plus en bande dessinée, quoi.
Oui.
Donc de Hergé à Toriyama, pour moi, je range ça dans les styles narratifs.
Ouais, ça brasse large.
Ensuite, je vois les styles illustratifs. Le style illustratif, c'est les personnes qui vont être capables de créer, qui vont accorder beaucoup d'importance à la sensation visuelle créée par leur image. Donc ils vont créer des visuels très forts qui vont vraiment procurer une sensation d'esthétisme, en donc, fait, au spectateur.
Donc ça va être un peu, pas décoratif, mais ça va être le un genre de visuel qu'on va aimer avoir en poster
c'est
ou
ça.
En tableau.
En fait, décoratif, ça a une connotation négative, ouais,
c'est pour ça que j'aime pas non plus, mais c'est...
Mais en gros, ouais, c'est ça. Bah, ça va être Mucha ou Klimt, qui font des choses avec beaucoup de motifs, qui sont très des foisonnements de détails, qui sont très beaux à regarder, en fait. Mm. Et enfin, les styles expressifs, pour moi, c'est les personnes qui mettent en avant une émotion, qui par leur visuel, par leur dessin, veulent avant tout faire passer une émotion. Donc ça va pas forcément être des choses très concrètes, on va pas forcément reconnaître exactement ce que ça peut être un petit peu abstrait.
Ouais.
Ça va pas être des scènes très, voilà, la personne fait pas un gâteau dans sa cuisine, c'est un personnage sous, je sais pas, avec un fond un peu, enfin, c'est pas identifiable en fait, c'est pas concrètement identifiable, mais ça va véhiculer une émotion. Donc évidemment c'est pas exclusif, c'est-à-dire que je range dans ces catégories, mais il y a des gens qui ne peuvent pas y rentrer. Vous pouvez très bien avoir un style qui est à la fois narratif et expressif. Oui, j'ai oublié de donner un exemple pour le style expressif, c'est par exemple Munch, vous voyez le cri de Munch, ou Egon Schiele aussi qui fait des personnages très torturés. Voilà, c'est, pour moi ça véhicule avant tout de l'émotion.
Oui, je suis d'accord.
Voilà. Donc pour ce qui est intéressant avec cette théorie, c'est pas que je vous bassine les oreilles avec, c'est tout simplement que ça peut vous aider à vous situer en fait. Vous pouvez vous demander là où je suis le plus fort, c'est là où ma zone de confort elle est, quel est le résultat ? Est-ce que quand je suis dans ma zone de confort, ça donne une image narrative, une image illustrative ou une image expressive ? Voilà.
D'accord.
Et partant de là, ça peut vous aider justement à faire le tri, ce qu'on disait dans vos influences, et à vous diriger un peu mieux vers votre style.
Ok, ben, on espère que ça vous sera utile d'avoir eu droit à la théorie fumeuse de Mamie JP. Et du coup, maintenant, la question qu'on va amener sur la table, c'est... Bah, on a parlé de tous ces styles narratifs, illustratifs, expressifs, de tout ça, de nos témoignages. Et en fait, est-ce que... avec le style qui évolue dans la vie et tout, est-ce qu'on peut avoir plusieurs styles,
voilà,
voire plusieurs styles en même temps ? Et ben moi, ma réponse, c'est oui, c'est pas grave. Et d'ailleurs, enfin, j'en ai parlé un peu pendant mon témoignage, mes illustrations à l'aquarelle, mes brouillons où je teste plein de trucs, et ma bande dessinée, j'ai pas le même style dans tout ça, alors que ce sont des choses que je fais d'un coup, et... Enfin, d'un coup...
Alors que c'est toi qui les fais, tout simplement.
Alors que c'est moi qui les fais. Si ça se trouve, c'est pour des personnes qui me connaissent pas, ce serait pas possible de voir une de mes aquarelles et de voir ma BD et de dire c'est la même personne qui a fait ça. Mais c'est parce que j'exprime pas la même chose aussi
ouais,
avec ça. Donc, quand il s'agit d'avoir un lien entre le fond et la forme, si vous avez plusieurs thèmes que vous aimez aborder et qu'ils s'accordent pas avec plein de certains styles narratifs, ça peut être un atout d'être capable d'en faire plusieurs. Si vous avez différents registres, voilà. Moi, personnellement, ça m'évite la monotonie artistique parce que j'aime bien changer régulièrement de façon de faire. J'aime bien tester plein de trucs. Puis ça permet de ne pas s'enfermer soi-même dans un style particulier aussi parce que...
Ouais, aussi.
Voilà.
En fait, faites ce que vous voulez. Et j'ai même une amie qui a deux styles très très différents. Elle a un style très réaliste et un style très cartoon. Et elle a carrément deux pseudonymes et elle dessine deux galeries différentes, etc. Et ça peut aussi être un avantage... au niveau professionnel, parce que ça diversifie vos compétences en fait.
Donc elle ne mélange pas du tout ses identités
non,
et ses styles.
Non, elle mélange pas, ouais. Non.
D'accord.
En fait, au bout d'un moment, on comprend vite que c'est la même personne, mais on voit qu'elle a deux styles différents, donc ça facilite aussi le fait de professionnellement, ce qu'on va lui demander, je veux tel style, et pas
ouais.
Voilà, parce que je veux raconter ça, donc c'est ce style-là que je voudrais.
Même dans si on pense à des personnalités connues du monde de la bande dessinée, il y a Moebius Jean Giraud.
Ah oui, clairement, tout à fait, ouais.
Clairement, lui, il avait pas envie de choisir, et il a bien eu raison, parce que...
voilà, c'est vrai.
Tout ce qu'il a fait, ça a eu du succès et tout, donc bon, voilà.
Bon, n'est pas Moebius qui veut.
Non, c'est pas ce que je veux dire.
Non.
Après, bref. Et donc, avec tout ce qu'on vient de dire, finalement, le style...
Est-ce que c'est vraiment important ?
Ouais.
Eh ben, oui, parce que finalement, est-ce que ce serait pas... Enfin, vouloir absolument, entre guillemets, son style, vouloir absolument être identifié en tant qu'artiste, est-ce que ce serait pas un petit peu une question d'ego ? Est-ce que nous autres, les artistes, on a souvent pas beaucoup d'argent, mais on a beaucoup d'ego.
Oui, mais l'ego ne paye pas le loyer.
Voilà, malheureusement. Du coup, c'est vrai que ça, en fait, ça correspond pas forcément à tout le monde d'avoir le style. Il y a des gens des artistes qui dès qu'ils commencent quelque chose, ils vont tout de suite avoir un style, quelque chose de reconnaissable, une identité très forte qui va se voir tout de suite et qui va rester avec eux, grand bien leur face. Et d'autres où ça va être plus moins reconnaissable, mais c'est pas grave.
Non.
En fait, c'est pas important. Parce que bah, on est tous différents et que ce qui est surtout, enfin, à mon sens, ce qui est important, c'est moins le style que ce que vous racontez, ce que vous en faites, que votre intention créative, ce que vous avez envie de raconter. Finalement, comment vous dessinez votre bonhomme, ça m'intéresse moins que ce que vous avez à dire avec, en fait.
C'est un aspect un peu
Un peu
superficiel,
superficiel, ouais,
ouais, c'est...
finalement.
Mais ouais, en plus, enfin, j'ai l'impression que pour beaucoup de jeunes artistes en herbe, vouloir développer son style à tout prix, en fait, ça peut être un blocage plus qu'autre chose.
Ouais, voilà, bah,
Donc,
moi typiquement j'étais dans ce cas-là.
ouais.
C'est-à-dire qu'à force de bah, pas vouloir avoir le style que, bah, j'étais bloquée en fait pendant des années.
Et aussi, enfin, avoir un style reconnaissable et fort, c'est le rêve de beaucoup d'artistes, en herbe ou non. Mais en fait, ça correspond pas à tout le monde et
Ça correspond pas à tout le monde,
c'est
voilà.
pas grave, c'est pas grave, c'est
Et
tout.
surtout que ça peut aussi être à double tranchant. C'est-à-dire que vous pouvez finalement vous installer dans un style qui vous identifie, vous êtes reconnu dedans, mais peut-être qu'au bout d'un moment vous aurez envie d'en changer en fait. Parce
Oui,
que
en fait, ça vous
la vie est
correspond,
longue, c'est ce
voilà.
qu'on vous souhaite.
Que ça vous finira par plus vous correspondre ou que dès le
Aussi, ouais.
départ, vous avez vous-même, vous vous êtes mis des contraintes qui vous gênent, mais que votre public a fini par s'habituer quand même à ça et il n'est pas au courant, le public, que en fait, ce que vous
C'est
faites,
ça,
ça vous
ouais.
plaît pas.
Donc ça peut être à double tranchant. Donc il faut se méfier un petit peu de cette question du style.
Voilà, donc un style trop fort, ça peut être une forme de prison pour un artiste qui n'osera plus évoluer ou expérimenter ou. Et si on le fait d'un coup, ça peut être au détriment d'une perte d'audience,
Par
éventuellement.
exemple, ouais.
Mais si c'est pour être plus heureux dans son style, que vous avez le droit de, si vous êtes déjà installé dans un style et que ça ne vous correspond pas, vous avez le droit d'en changer radicalement aussi.
On vous donne le droit, voilà. On vous signe le papier.
On vous fait le mot, on
Voilà.
vous fait le mot dans
J'espère
le
que vous vous
carnet.
sentez mieux.
Bon, enfin.
Heureusement qu'on est là.
Qu'est-ce que vous feriez sans nous? Bon, enfin bref, tout ça pour dire, en fait, votre style, pour nous, enfin pour Jackpot et moi, au moins vous y penserez. Et au plus, il sera proche de qui vous êtes.
C'est ça, voilà.
C'est...
C'est inconscient finalement. Laissez l'inconscient faire.
Ouais.
Et donc, on va conclure cet épisode. Donc la recherche du style, finalement, Podcast a une position très tranchée dessus.
Podcast, c'est-à-dire JP, Jackpot et moi.
Voilà, pour nous, c'est un faux problème en fait.
Oui.
C'est parce que le style, ça va fluctuer au long de votre vie, ça va évoluer. Il faut vous laisser évoluer. Faut pas chercher à vous rentrer tout de suite dans une case ou quoi. Voilà, vous êtes là pour expérimenter, pour vivre plein de choses différentes. Et finalement, le style, c'est, comme ce qu'on disait, c'est un petit peu cosmétique, c'est un petit peu superficiel. Comparé à ce que vous, l'intention créative que vous avez, voilà.
Comparé à ce que vous produisez réellement, en fin
Voilà,
de
c'est
compte.
ça.
Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est...
Ce qui est important, c'est moins, enfin, pour nous, c'est moins d'avoir un style reconnaissable que de ce qu'on en fait, comme par exemple, bah, on parlait du manga au
Ouais,
début.
bon
Et
exemple.
voilà, bon, le style manga, évidemment, ça recouvre énormément de choses, mais
Mais
quand on dit style manga, c'est très identifiable tout
c'est
de
ça, il
suite.
y a plein d'auteurs de manga qui ont des styles personnels, mais quand on dit
Ça
style
s'inscrit
manga,
dans quelque chose, voilà,
on
qui.
voit de suite, on visualise de suite un truc un peu particulier,
Voilà,
c'est de
c'est
ça
ça.
dont on parle là.
Et c'est très codifié, mais malgré ça, ça raconte des tas d'histoires différentes et ça crée des tas de choses, quoi. Ça,
Ouais.
c'est un cadre dans lequel vont s'épanouir plein de créations différentes.
Et au final, le webcomic en soi, pour retourner sur le
Bah
terrain du
oui,
webcomic,
n'est-ce pas?
et bien le webcomic finalement, c'est une expérimentation en soi qui vous amènera très
Voilà.
certainement à trouver votre style.
Ne pensez pas à votre style, pensez à votre webcomic et le style viendra, s'adaptera à votre webcomic en
Ouais.
fait. S'adaptera à ce que vous avez envie de raconter.
Il viendra s'accrocher à vous comme une sangsue
C'est affreux!
à une plaie dans comme un petit poisson à un requin, on va
Ouais,
dire.
comme une rémora à un requin, ouais.
Voilà. Et bon, sur cette métaphore hautement débattable, on va passer à la recommandation de
Ouais.
webcomic du jour. Et on vous a choisi pour cette recommandation de webcomic un webcomic qui, à notre sens, recoupe bien tout ce qui peut découler d'un style artistique personnel, que ce soit d'un point de vue donc
Graphique.
du graphisme, de la narration, de l'atmosphère, de la façon dont tout ça est géré. Et ce webcomic, c'est Docteur Cataclysme de Mortis Ghost. Alors, si vous vous souvenez bien, Mortis Ghost,
Ah,
eh
elle
oui,
l'avait préparé,
eh,
hein!
j'avais planté les petites graines de
C'est
je
ce
ne sais pas.
payoff, cette structure
Ah.
incroyable.
Donc Mortis
Tout est
Ghost,
calculé.
qui est donc le créateur du jeu vidéo
Off,
Off,
dont
qui
tu
fait
as déjà
partie,
parlé,
voilà,
ouais.
dont j'ai déjà parlé, qui fait partie de mes influences à moi. Il fait aussi le webcomic Docteur Cataclysme, qui porte le nom d'un protagoniste qui démarre l'histoire en se prenant une flèche d'or
Dans la
dans
poitrine,
la
ouais.
poitrine. Et suite à ça lui confère des super pouvoirs, mais également, il disparaît. Il disparaît complètement de l'intrigue, et en fait, tout le reste de l'histoire, c'est ses coéquipiers qui sont qui sont sur dans un vaisseau spatial, parce que c'est une histoire qui se passe dans l'espace, qui le cherchent. Et ce sont des gens normaux, en fait, et ils fluctuent un peu dans leur quête de leur ami de façon normale. C'est-à-dire qu'ils se perdent un peu, ils savent pas où chercher, ils font de leur mieux, des fois on voit des morceaux de leur vie, c'est un petit côté tranche de vie, c'est un petit côté absurde, c'est un petit côté onirique, c'est un petit côté contemplatif. Et c'est tout un cheminement comme ça, où on sait pas exactement où on va, mais on suit l'équipage. Et donc le dessin est très très personnel, et la façon de raconter est assez unique. Et pour toutes ces raisons, on trouvait que ça remplissait bien les critères du style.
Eh bien merci Léa pour ta recommandation, j'espère que ça vous plaira. C'est la fin de cet épisode de podcast, merci de l'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des likes, partager, vous abonner à la chaîne, vous connaissez la chanson.
Oui, et on aime bien quand vous laissez des likes et des commentaires.
Oui, c'est vrai, ça nous fait quand même plaisir.
Oui.
Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de podcast qui portera sur le thème de l'écriture.
Ah, on va pouvoir mettre les mains dans le cambouis.
Enfin, il était temps.
Oui.
À bientôt.
Au revoir.